Welcome to Ryle Books Podcast, an archival space for the readings and conversations that we host in our bookshop and project space in Brussels. For this episode, we're delighted to bring back a reading by L.A. Warman and Clara Picot that took place in December 2023. This will be our first bilingual episode featuring excerpts of Hors Foods in its original English, interspersed with Clara Picot's French translation, which was published by Rag Editions in 2022. L.A. Warman is a poet, sound artist, and teacher currently based in New York City. Her most recent poetic novella, titled Dust, was published in 2022 by Impatient Press. Warman is the author of Hors Foods, an erotic novella which received a Lambda Literary Award in 2020. She is the founder of Warman School, a non-accredited and body-based learning center, where she teaches courses on topics such as erotics, death, depression, and God. Warman is a graduate of the MFA program for writers and poets at the University of Massachusetts in Amherst. She has had performance and installation work in shows at Mocha Cleveland, ICA Philadelphia, Time-Based Art Festival, Poetry Project, and Open Engagement. Clara Picot is a writer, videoist, and researcher. In her work, she develops potential social alternatives by mixing documentary and fiction, the Middle Ages, and time extrapolation. She thinks about her films and texts as archives of a better future. Clara Picot co-founded the group IAPES in 2017 with Charlotte Huet to investigate feminist and queer issues in science fiction literature and experimental feminist translation. We hope you enjoy listening to this episode.
Bonsoir à tous. Donc, on va vous lire des extraits du livre de la traduction de Hors Foods de L.A. Warman. Ce sera moitié français, moitié anglais. Et L.A. va lire aussi des extraits elle-même, en langue originale. Elle vient à ma caisse et dit
« T'es homophobe. »
Et je dis
« Mais je sors avec toi. »
Et elle dit
« Jamais assis. »
M dit qu'elle est jalouse de moi, qu'elle aimerait être moi. Pas enceinte, pas la bosse, pas mariée.
Et je lui dis, M, rien ne serait plus pareil si seulement tu faisais ton coming out.
Sortir du placard est la plus respectable des façons de partir.
Envoie un email groupé et dis à tout le monde que t'es gay, que tu as toujours été gay, que la société t'a simplement toujours rendue honteuse.
Cette société ne t'acceptera pas, toi et ta gayness.
Tout le monde pleurera, sourira et se sentira plein d'amour pour toi.
Tu peux laisser ton mari et avec tes enfants. Parce que tu as besoin de temps pour te recentrer et comprendre de quelle merde tu as vraiment envie.
Tu peux abandonner ta famille, t'installer à la grande ville.
Pendant tout ce temps, tout le monde pleurera des larmes de joie et sera tellement fier de toi et de ton coming out, de comprendre enfin qui tu es.
Je dis tout ça à M, et M fixe ma bouche.
Putain, t'es vraiment en train d'essayer d'avoir ta petite expérience lesbienne avec moi, là sur ce canapé.
F boit toujours un verre de vin pétillant avant le travail. On est en train de compter l'argent en réserve quand elle m'en parle. Elle sourit et pouf, elle a bu du vin avant le travail. Elle a bu plus de vin que d'habitude avant le travail. Ce mardi normal, elle en a fait un mardi spécial.
Il y a une femme.
Elles me suivent partout.
Elles viennent à ma caisse tous les jours.
Elles achètent des eaux pétillantes.
Elles achètent du cola de la marque du supermarché bio et je sais qu'elles n'ont pas besoin de soda à 79 centimes. Elles ont besoin de moi.
Il y en a une qui a besoin de moi plus que l'autre.
Une qui a besoin de moi le soir dans son lit.
Une qui me retrouve au Starbucks pendant ma pause déjeuner.
Elle est jeune et gagne plus d'argent que moi.
Elle gagne beaucoup plus d'argent que moi.
Elle choisit elle-même ses horaires.
Elle me retrouve au Starbucks et elle espère que personne ne nous verra.
On s'assoit sur le gros canapé en cuir.
On s'y enfonce tellement qu'elle est difficile de se relever.
On s'y enfonce tellement que personne ne peut nous voir.
Elle touche ma tête, je touche sa cuisse.
J'ai envie de retoucher sa cuisse, de la toucher plus fort.
J'ai envie d'elle encore et encore, à des heures diverses, mais elle ne me rejoint qu'entre midi et deux.
On est au Starbucks, à siroter des lattés au lait de coco avec des pailles vertes.
Je ne sais pas si elle me trouve attirante avec ma paille.
Je suis en train de craquer pour elle.
Je sirote mon latté très silencieusement, mes yeux dans ses yeux immenses.
Elle ne porte même pas de costard et elle gagne plus d'argent que moi.
Je pleure sur le canapé en cuir parce que je veux qu'elle me touche encore.
Elle monopolise toute ma demi-heure de pause et je n'aurai pas le temps de manger. Et si je ne jouis pas, je vais mourir.
Si je jouis, je serai comblée.
Il y a autour d'elle une sorte de brume, une brume de parfum et son corps. C'est épais, ce n'est pas naturel, son corps est introuvable, toujours trop loin ou trop rapide. Ou alors elle glisse sa main dans mon legging et frotte mon clit trop vite, comme elle doit se frotter toute seule le soir entre 22 et 23 heures. Elle me fait jouir dans le Starbucks.
Un parking seulement entre nous et le reste du monde. Un parking entre elle, moi et tous les autres. Entre le job, l'argent et la bouffe bio.
A.A. m'emmène à l'étage dans la salle de classe de l'université du supermarché bio. A possède la clé parce que tous les jeudis, elle donne un cours de masque de beauté. À chaque jeudi, son masque. Avocat, blanc d'œuf, chocolat. A verrouille la porte derrière nous et m'installe sur un tabouret haut. J'essaye de prêter attention à chacun de ses mouvements pour me rappeler comment être belle, pour que je puisse être transférée au rayon bien-être et gagner plus d'argent avec d'autres belles personnes. Ses énormes yeux marrons scrutent mon visage d'un bouton d'acné à l'autre. J'essaye de lire ses émotions, parce qu'à Sephora, elle m'avait dit que sa mère n'avait pas de papier. Mais comme toujours, elle est éblouissante et froide. Elle soulève l'opercule en aluminium du yaourt bio au lait de chèvre à la vanille.
J'aurais préféré que ce soit au chocolat, mais bon, tant pis.
Elle ne me laisse toujours pas parler. Elle plonge deux doigts dans le pot et en ressort une grosse quantité flasque qu'elle étale délicatement sur mon visage, s'assurant que seul le yaourt touche ma peau irrégulière et non son doigt. La clim souffle tellement fort que des mèches de mes cheveux viennent se coller au yaourt.
Mon Dieu, respire.
J'essaye de caler ma respiration sur la sienne.
Maintenant, on doit attendre 10 minutes. Je peux essayer un truc sur toi ? Je pense à diversifier ma sélection de masques pour des clients privés, lancer une affaire à côté du taf. Si tu veux une nouvelle sorte de masque, lève la main gauche. Si tu veux rester assise toute seule pendant les 10 prochaines minutes, lève la droite.
Je lève la main gauche et elle sort un petit récipient noir de son tote bag.
Allonge-toi par terre et enlève ton jogging.
Elle ne laisse transparaître aucune émotion, ça me rassure. J'enlève mon jogging, elle remonte mon sweat et expose mes seins mous. Elle fronce un peu les sourcils et secoue le récipient. Elle applique le masque de la même façon qu'elle l'a fait sur mon visage, mais cette fois uniquement sur mes tétons. La crème ressemble à du fromage vert de noix de cajou et ne sent rien. À peine l'a-t-elle appliqué que mes tétons se durcissent. Ils surgissent de la couche de crème comme s'ils venaient de prendre conscience d'eux-mêmes. Je me sens m'élever. Je me sens comme une montagne. J'ai l'impression que mes seins ne seront plus jamais mous, mais des méduses dures et bourdonnantes. La crème fait palpiter mon cœur, mais je n'ai pas le droit de parler, pas le droit de poser la question. Elle semble satisfaite du désir qui envahit mon corps. Elle baisse les yeux vers mes poils de chatte pas rasés, et je m'attends à la voir sortir un rasoir pour me raser avant de mettre sa bite en moi, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Mes poils gonflent, un nuage sombre au-dessus d'un clitoris. Elle met des gants, elle écarte mes jambes comme une docteure, elle pose une main ferme sur ma montagne, écartant mes poils.
Bien, je pense que ça va marcher.
She pulls out the cream she used on my breast and applies further, more delicately with her gloved hand. She is putting rivers on my mountain with cream, pushing further and further down. The buzzing spreads from my nipples to my pubis, and I can't tell where my body ends and the floor begins. I am body and the floor. I am a body on the floor. I do not end. She is still massaging my pubis when she clinically spreads my legs further apart. She wipes a little cream on my outer labia, says something about not needing to worry about my pH levels because the cream is something, but I cannot listen because my whole body is pulsating. I am a child running to the end of the driveway to feel my thighs jiggle. I am uncovering what my body can do. My body can be incredibly taut and boundless. Soreness can be pleasure. She can get her energy from the pleasure of others and never once become aroused. My body is ready. She is studying the reaction of my pupils. She is putting the cream on my clit. The pleasure is decentering. I cannot escape from a room that has no walls. I'm falling and turning. Well, 10 minutes is almost up. She grabs my thighs. The clit juice pours out like I have never seen before. I am a faucet. I am coming, but I think I have been coming for 20 minutes. I thought I came, then forgot. I came again. I forgot again. I came again. I close my eyes. I open my eyes. Had she let me speak, I would have said, I'm coming 100 times. I would have screamed. I would have annoyed her roommate. The clit juice is still pouring out. I look to the floor. See, it isn't a floor. This whole time I've been sitting on a bucket. She is measuring, noting my output. She smiles a little. I know I've done a good job. She is never satisfied. She wants more.
S est transférée à la boulangerie.
Je ne la vois pas souvent.
Le rayon boulangerie la rend encore plus mignonne, avec sa veste de chef et son petit chapeau.
Parfois, elle attache un bandana noir autour de ses cheveux.
Elle rit quand les gens la complimentent, les viennoiseries et les pâtisseries élaborées.
Elle rit quand les gens pensent que c'est elle qui les a faites.
Elle rit quand elle ouvre les boîtes en provenance de la boulangerie centrale et qu'elle se demande comment les gâteaux ont pu rester entiers.
S n'y connaît rien à la boulangerie.
Elle est ouvreuse de boîtes, trancheuse de pain, arrangeuse de pâtisserie.
Elle n'a jamais rien cuit au four, à part la tranche de pizza qu'elle avait mise à réchauffer quand elle était à l'université et qu'elle l'avait oubliée.
Elle avait oublié la tranche de pizza pendant toute une projection de Obsessed.
L'audience avait applaudi au moment où Beyoncé tue la femme blanche avec un chandelier.
S était retournée à son dortoir et toute sa chambre était remplie de fumée, mais aucune alarme ne sonnait.
Même le hall sentait la pizza brûlée.
Elle est contente de n'avoir tué personne ce jour-là alors qu'elle aurait pu.
Elle garde toujours la part de pizza carbonisée sur son bureau comme rappel de la chance qu'elle a.
Elle a tellement de chance d'avoir été transférée à la boulangerie.
Elle passe sa journée à réviser pour le test.
Si elle réussit, elle pourra écrire sur les gâteaux des phrases approuvées avec des typos approuvés.
Elle ne s'est pas sentie aussi impliquée dans les études que depuis son premier semestre en école d'art.
Au niveau des caisses, c'est tranquille. Alors je rampe sous la mienne.
Je rampe tout au long jusqu'à la boulangerie.
Je suis plus visible des clientes que de ma team leader, qui n'a jamais regardé ses pieds.
Je rampe jusqu'aux chevilles de S et les effleure.
Ça ne la surprend pas.
Elle continue de s'entraîner pour le test.
Elle écrit mon nom, encore et encore, en attaché.
Je lèche son mollet et elle continue d'écrire mon nom sans sourciller.
Je regarde sous sa jupe. Elle ne porte aucun sous-vêtement.
She never shaves her pubic hair. It all comes together in a curl, like an ice cream cone or whatever. Her thighs are really sweaty. I can feel the heat. Since we are in the back room of the bakery department and alone, I can tell her the things I will do to her if she fails the test. First, I will scratch my nails into your thigh until you bleed. Then I will take the baby out of your uterus. I will leave the baby on the floor. Tell everyone it's not blood, it's frosting. But I'm not even pregnant. But I will do that for you, S. Then I will make you hold the wine in your mouth till the acid is burning your tongue. Then I'll make you spit it out on my breasts, make you watch it drip down my torso. I won't let you lick it, even though you want to. I will rub your clit, your labia, till you're about to come. Then I will stop. I will almost go down on you. Then I will finger you instead. I will only finger you with one finger, never two, never three, maybe a fist, but never more than one finger. I will never make you come. I will leave you. I will leave you here or in your bedroom. I will make you suffer. I will make you cry. But you will know after me, you will never come again. Even with a vibrator or the hand of another, you only want me. You marry because you like parties. You want your dad to buy you wine, but the party won't make you come. No one has ever made you come before me. No one will make you come after me, but you will be okay. You will write a lot of beautiful letters in your frosting. You will make people happy. I am trying to be sexy, but I don't know if S likes it. I mean, it's my fantasy, not hers, but I wish it could be our fantasy. I ask her what she wants, but she doesn't reply. I look up, a drip of wet coming from her labia. I move a little, it drips onto my cheek. Another drip lands in my mouth, another almost in my eye. I'm laying on the ground, I get on my knees, begin to lick her labia, then her clit. She doesn't show any signs of arousal, but I bet her legs are shaky. I am licking her more and more, and more wet emerges, fills my mouth. It is warm and gelatinous, her body engorged. I make her come in a minute because I feel bad about my fantasies. I want her to come again, so I put three fingers up her, push pressure towards her belly. She comes again. The overhead announcement is the voice of my team leader. She asked me to return, but in words I do not directly say this because she doesn't want the store team leader to know I am missing again. Because she still thinks she can fuck me in the future. She doesn't want me fired. I want to make S come again. I do everything in threes. I get a flat tire in threes. I trip three times when I walk. I get three tattoos. I make S come three times. I ask if she knows that the seeds of the papaya are a natural birth control. She says, "Why does she need papaya if she has me?" I tell her she doesn't have me. I suck on her clit. She comes fast and violently, falling to the floor. Papaya is what you taste like, S. Papaya is the word I was looking for.
Elle n'arrête pas de m'envoyer des textos, mais je porte trois gants les uns sur les autres. Je ne peux pas répondre. Je n'ai pas répondu à ses messages depuis des jours. Je ne pouvais pas répondre. J'avais trois paires de gants. J'étais dans un frigo. Je ne pouvais tout bonnement pas répondre.
À chaque fois que je reçois un message, mon écran s'allume et elle lit le message à tout le monde. Elle n'arrête pas de m'écrire au sujet de ses besoins. Je ne peux pas répondre à ses besoins. Je suis occupée. Je ne suis pas au taquet. Je suis dans mes pensées. Elle rit de son désespoir. Je veux changer de sujet.
L'une d'entre vous a déjà participé à une orgie ?
Personne ne dit rien. Mais tu ne peux pas mentionner une orgie dans un frigo plein de femmes. Si t'en parles, c'est sûr, ça arrivera. Les mots flottent dans la pièce, se cognent au plafond, mais ne traversent pas les murs.
R fait sauter les grains de raisin en pensant
« Orgie, 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 orgie. »
G sort les pépins des papayes à la cuillère, elle tranche les fruits et les épluche en pensant
« Orgie, orgie. » Orgie, orgie.
Bi tranche, épluche et dénoyote des mangues dégoulinantes en pensant
orgie, 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 orgie.
A person cuts the mango. The person was B. be a mother herself, cuts mangoes faster than any person and more accurately than a machine, but only because no machine has been developed to adapt to the changing shape of mangoes. Sometimes B slices her finger, places a small blue finger caught over it. A finger caught looks like a tiny condom. B moves her cut finger like a dick.
B fait une liste de choses à lécher.
Du 100% coton, des contenants en plastique fraîchement sortis du lave-vaisselle, tout type de marbre, de la papaye, évidemment donner une piche nette aux pépins avec la langue, des sacs en plastique remplis de raisins, n'importe quelle feuille d'arbre.
Qu'est-ce que tu lèches d'autre, Bi?
Les pommes, les huîtres, les prunes, certains métaux, le pudding, le lait, les confettis, les vieux bouts de papier, les baies, les glaçons, les plantes grasses, la chantilly, la crème de coco, les épis de maïs et les cristaux de sel.
Comment faire pour que le désir survive quand je m'autodétruis en permanence?
Est-ce que c'était vraiment de ta faute? Demande Bi.
Bien sûr, je l'ai poussée à partir. Je veux que Bi pense que je suis méchante et que j'ai le contrôle et je réponds, bien sûr que c'était de ma faute.
Bi smiles, begins rubbing my neck. The sound when my knife travels through ripe avocado. This avocado will be guacamole. But for now, it is avocado, perfectly green and smooth. B asked me where I was the last time I had sex.
Elle, G, B, R et moi, on est dans le frigo. Il fait à peine 0 degré. Tout au long de notre service, on empile de plus en plus de couches de vêtements sur nos corps. La chaleur de sauna s'estompe et j'emprunte encore de nouveaux vêtements à enfiler. Mes doigts sont probablement bleus sous les 3 paires de gants. Je demande à Bi, c'était où la dernière fois que t'as fait du sexe? Bi répond,
juste ici, dans les chambres froides.
Avec qui?
Elle, G et A, mais pas toi.
Travailler comme caissière, c'est être exposé.
Être un corps gay femme en public, c'est devenir hétéro.
Mon corps défini par les autres, les pas moi, et je voudrais juste être un corps avec elle.
La femme a un caddie rempli de plusieurs articles identiques.
La femme arrive avec son propre porte-vue.
Le porte-vue la trahit.
J'éteins ma caisse et je place la barre de caisse fermée au bout du tapis.
Des coupons.
Les collectionneuses de coupons.
La femme achète un lot de paquets de tofu.
Elle voudrait la réduction de gros, la réduction du supermarché bio et la réduction du fabricant.
La femme a tellement de coupons, elle a une pile de coupons.
Après calcul, son lot lui revient à 1,55 $.
Elle sourit d'un air suffisant et regarde tout autour pour voir si les autres ont remarqué l'incroyable affaire qu'elle est en train de conclure.
Cette réduction exclusive, elle ne la doit qu'à elle-même.
Chaque fois que je scanne un coupon, je dois utiliser la clé des responsables de caisse.
Q est ma responsable.
Elle est belle.
Elle a l'air jeune.
Elle passe derrière ma caisse.
J'aime l'écart entre ses dents, en haut comme en bas.
L'espace derrière la caisse est si exigu qu'elle se penche contre ma hanche.
Je scanne le coupon, elle tourne la clé.
On se cale sur un rythme bien régulier. Elle se met à transpirer, de si nombreux tours de clé.
Pourquoi est-ce qu'on est tous là? On est là pour une carte Platinum. 1% des employés accèdent au statut santé Platinum, ça veut dire avoir 30% de réduction sur tout le magasin au lieu des 20% accordés aux autres. Ça veut aussi dire que tu sors ta carte Platinum à chaque paiement et que tout le monde la voit. Tu peux l'agiter dans tous les sens ou la ranger discrètement dans ta poche, mais les gens voient, les gens savent.
Il y a 4 niveaux, bronze, argent, or, platinum. Chaque niveau augmente la réduction de 2% sur tout le magasin. Hier, ma coloc a trouvé 2,5 kg de fromage dans une poubelle et on les a mangés. C'est la première fois que je passe le test. On est tous dans la salle appelée l'Université du supermarché bio, où les nouvelles recrues sont formées et les clientes guidées par des team members sur des sujets tels que comment j'ai traversé l'Amérique à pied, comment faire le smoothie parfait, les donuts vegan.
Toutes les chaises ont été enlevées et remplacées par des lits de camp. On passe l'examen 10 par 10. Les infirmières dépêchées pour l'occasion mesurent nos tours de taille, de hanches, de cuisses, écrit les chiffres à leurs assistants munis d'iPad. La femme utilise un mètre ruban qui me semble archaïque, mais je n'arrive pas à imaginer une autre façon de mesurer un corps. Mes mensurations sont bonnes, donc je passe au test suivant, la tension artérielle. Chaque personne a 3 essais. Le premier, je le rate. Je suis nerveuse. Je répète plusieurs fois le mantra que suggère l'infirmière.
Je suis saine, je suis belle, je suis forte.
Et je réussis le test. Je me dis que les mantras, ça peut fonctionner finalement. Ou alors ça n'a fonctionné qu'aujourd'hui. Ou alors l'autre infirmière me manque. Elle a mesuré mes cuisses et ni elle ni moi n'étions capables de déterminer la nature de ce qui s'y trouvait. Du sang, de la merde, du jus de clit. En tout cas, c'était mouillé. J'en suis au dernier test, celui du sang. J'ai mangé tout ce fromage hier, mais j'ai aussi jeûné 18 heures avant le test. Je suis pâle, mais peut-être seulement calmée par le mantra. Cette femme tapote mon poignet à la recherche de mon sang. Elle cherche partout, mes veines sont si fines. Elle me dit serrer le poing et de contracter mon muscle, et j'essaye, mais elle n'arrive pas à la trouver, la veine dans mon bras droit. Elle se lance quand même et se rate. Je l'ai bien senti. Ma peau se réveille, se tend, hypersensible. Elle essaye dans mon bras gauche et les sensations subsistent. Et je ne peux pas dire si elle a piqué ma veine ou non, ou si je suis une fille, ou si mon nom est W ou Z, ou si j'ai eu mon bac.
Est-ce que je suis allée au lycée? Est-ce que c'était marrant? J'avais beaucoup d'amis? Suis-je une mère? Le corps n'est plus ici, il est là, là ou là. Je suis entourée de gens que je n'ai pas envie de voir, donc j'arrête de les voir. Et elles flottent et s'en vont vers le violet. Attends, qui est-elle? Je la vois, elle... que je cherchais, après laquelle j'ai couru depuis des jours. J'ai couru 540 kilomètres pour elle. Je suis morte. Je suis juste un morceau de fromage de poubelle. Je fonds dans ses bras, mon gras dégouline entre ses cuisses. Elle se demande si elle pourrait baiser ce morceau de fromage de poubelle quand tout à coup, je flotte jusqu'à sa tête et je m'assois dessus.
Je veux de nouveau être un corps pour pouvoir te baiser. Bébé, tu n'étais même pas un corps quand tu me baisais.
I am dropped from sky to concrete floor, and I am a body again. There are 2 unclothed nurses, and I don't know how I know they are nurses, but we are all unclothed together. We form a circle of mouth to vagina. How did I become so flexible? We suck each other like medium-powered vacuums. Sucking, sucking, they are dripping. I am keeping my eyes open. We are babies for each other. The only thing we know is suck. We have no language. We have bodies, bodies for one purpose. Only the body for her. This is just practice for her. I am sucking these nurses off for her. I am putting my erotic energy into the world for her. I have the tip of my tongue on the tip of her clit. I am flicking it. I love the roundness of her clit. An alarm rings. We know it means switch. I flip my body over. My face is in a new clit, an equal clit, an unfamiliar clit. I reach my hand towards her, grip her anus. I suck like a baby. We are all wet and warm like a campfire. We are in this together. It will never end. We will continue till another alarm. Then we will flip over again and suck again. Her juice is plentiful. Tastes like an orange, but not a creamsicle. Tastes like orange, coconut water, and papaya, and seaweed, and hummus. She's my hummus baby for the moment. The rhythm of the circle quickens. We suck faster and faster. We are rising up and down. We are at the gym in a pit of foam. We are sinking into darkness with pressure from every direction. We are floating because we are supported. We float together. We are a hive. We are apart from government, from language, from power. For the moment, we extend the moment as long as possible. Up and down and circles. Her clit is growing and sinking in my mouth. I want to bite it, but only a little. She is still pouring thick in my mouth. My mouth fills and I swallow. She is infinite, her body infinite. Our bodies made infinite together. We are a cloud. We do not begin or end. We are timeless. We are not connected to space or time, as if the only way we could ever perform an act after capitalism is the fuck. The fuck enables us to exit. Structures of power still flowing within us, but we are mindless. She begins to laugh when I slow and quicken my pace. She's laughing harder and harder. We are a joke, as in a joke quickly forgotten, separated from any reference. We are that joke you would never tell. We are a butterfly flying nowhere, landing nowhere.
Dans le magasin, tout le monde a vu la scène. Elle est entrée dans le magasin, elle a vidé tout son smoothie vert sur le sol en écrivant mon nom. Elle a ouvert 10 paquets de chips et les a jetés en l'air. Elle a fait pleuvoir de la laitue, c'était beau. La store team leader appuie sur un bouton et l'angle de la caméra change. Maintenant, on voit le bar à salade. Elle est en train d'enlever tous ses vêtements. Elle met du quinoa dans son vagin, mauvaise idée pour son pH. Elle renverse de la sauce à l'avocat sur sa poitrine, couvrant ses seins avant de les découvrir à nouveau, ça dégouline partout. Elle disparaît derrière le comptoir et se tortille sur le sol en béton.
Elle veut jouir 10 fois, elle crie et regarde droit dans l'objectif. Elle, une déesse. On regarde la vidéo en entier, elle dure 20 minutes. La scène finale la montre couverte de quinoa, de céréales, de farine sans gluten, de sauce à l'avocat et d'huile de coco. Je suis fière de la voir même là respecter ses restrictions alimentaires. La store team leader met pause et rembobine la vidéo jusqu'au début. Elle, à côté de mon nom inscrit dans le jus vert, je fixe l'écran sans ciller.
Donc, comment tu la connais ? Demande la store team leader.
Je ne la connais pas.
Alors pourquoi il y a ton nom écrit dans le jus ?
Je ris de cette flaque et fronce les sourcils en adoptant un air concerné. Tu sous-entends que parce que je suis une femme gay, je suis censée connaître toutes les butches ? Est-ce que tu essaies de dire que cette situation est de ma faute ? Maintenant, c'est elle qui fronce les sourcils.
Je ne disais pas ça parce que tu es gay. Je me disais juste que vous feriez un joli couple.
Ah, tu pourrais me donner son numéro ?
J'essaierai de le trouver. Tu as aimé la vidéo ?
Oui, merci. Oui, merci.
I get up, I smile at her. Bye, you're doing great. Thank you. I appreciate that you respect the LGBTQ lifestyle. It really means a lot for me to work at a place that's so friendly to the gays. She smiles, shuts the door. She sits in her chair the largest in the store. She tries to calm herself. She put herself in that position. She knew she shouldn't have accused a gay of something based on a tea leaf reading. She had no evidence. She only felt. Another day, another almost lawsuit. But for today, no lawsuit. She repeats the store mantra 100 times before heading back down to the floor. I am healthy. I am beautiful. I am strong.
Merci.
Merci.
Thanks for listening to the Ryle Books podcast. This episode was recorded and edited by Roz Del Olmo.